D'abord, merci de m'inviter et je voudrais commencer par adresser un message d'amitié, de solidarité, d'encouragement à tous nos collègues sur le terrain, tous nos collègues des missions de maintien de la paix qui font un travail extraordinaire dans des environnements qui sont souvent très durs. Pourquoi la jeunesse? Eh bien, d'abord parce que le travail de protection des populations, le travail de soutien aux efforts de paix, c'est un travail qui est tourné vers l'avenir. Et donc, c'est un travail qui est tourné vers la jeunesse et les aspirations de la jeunesse. Et aussi parce que dans nos opérations, nous avons énormément, la majorité de collègues qui sont des jeunes, que ce soit des civils ou des militaires ou des policiers. Et aussi, troisième raison, parce que la plupart des pays dans lesquels nos opérations sont actives ont des populations qui sont très jeunes. Et donc, travailler avec ces populations, avec les jeunes, les femmes, tous ceux qui ont un enjeu particulier dans l'avenir de leur pays, c'est essentiel. Et je crois que le thème de la jeunesse, donc, il est vraiment complètement au centre de nos préoccupations.
Alors, justement, vous mentionnez que dans la plupart des pays où nous travaillons, les jeunes, c'est une partie importante de la population. Alors, pour voir ce que cette thématique peut signifier sur le terrain, on va se rendre d'abord au Mali avec Martial Assem de Mikado FM, radio de la mission de l'ONU au Mali qui émet depuis 2015. Martial, vous avez la parole.
Merci Christina. Monsieur Lacroix, bonjour.
Bonjour.
C'est surtout un plaisir de vous avoir de nouveau sur les ondes de Mikado FM auxquelles vous êtes désormais habitué. Alors, qu'est-ce que vous dites à un jeune qui voudrait s'engager comme casque bleu, mais qui redoute les conditions difficiles dans lesquelles travaillent parfois les soldats de la paix?
Bon, je lui dirais d'abord que nous sommes tous aujourd'hui, je dirais, dans le même bateau, c'est-à-dire que les enjeux de la paix, ils sont universels. Et donc, s'engager au service de la paix, c'est s'engager pour finalement une sorte d'idéal collectif et pour quelque chose qui nous concerne tous. Maintenant, je lui dirais aussi, bien sûr, les conditions dans lesquelles nos collègues travaillent, elles sont toujours difficiles. D'ailleurs, sinon, il n'y aurait pas d'opération maintien de la paix déployée dans ces endroits-là. Mais moi, ce que j'ai observé sur le terrain en parlant avec nos collègues, en parlant avec les jeunes, dans nos missions, les civils, les volontaires, les autres, les soldats, les policiers, j'ai observé qu'il y avait énormément d'enthousiasme, énormément de détermination, énormément de volonté d'aider, et je crois une très grande joie dans le fait de servir, et de servir à quelque chose, et de servir une cause qui est juste, de servir des populations, d'aider des communautés qui en ont besoin. Et je trouve que En les écoutant, il y a quelque chose de très motivant, presque d'exaltant dans cette mission. Donc c'est ça que je leur dirais, il faut faire la part des choses, mais renseignez-vous, parlez à ceux qui sont sur le terrain. Et je crois qu'ils auront la même impression que moi. Oui, c'est difficile, mais en même temps c'est exaltant, c'est très motivant. Il y a un sens de la communauté, il y a un sens de l'effort collectif tourné vers des objectifs, vers des idées qui sont vraiment au cœur de nos valeurs. Valeurs positives des Nations Unies.
Alors, vous avez visité récemment plusieurs missions de l'ONU, hein, vous avez été notamment au Mali. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs le souvenir de rencontres qui vous ont marqué et qui illustrent l'importance d'impliquer les jeunes dans les opérations de maintien de la paix?
Oh oui, bien sûr. D'abord, parce que très souvent, dans mes visites avec mes collègues, d'ailleurs souvent accompagné moi-même de collègues qui sont des jeunes. Nous avons rencontré des représentants de la jeunesse, que ce soit à Gao et aussi dans le centre du Mali. Et j'ai entendu très clairement ces jeunes à la fois dire quels étaient leurs espoirs, leurs aspirations, mais aussi dire à quel point la présence de nos collègues des missions, la présence de nos opérations les aidait et les aidait à avoir de l'espoir. Et je crois que c'est très très important d'avoir ça à l'esprit parce que on entend beaucoup de choses sur les Nations Unies, sur nos opérations, beaucoup de désinformation, beaucoup de fake news parfois, de manipulation. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de l'esprit ce que nous disent les populations là où nous sommes présents, et notamment ce que nous disent les jeunes, et à quel point ils peuvent trouver, à travers l'action que mènent nos collègues, une source d'espoir, une source d'espérance pour l'avenir. Et je voudrais aussi dire que j'ai fait des rencontres qui sont restées gravées dans ma mémoire, des rencontres de jeunes collègues, très très souvent de jeunes collègues qui sont dans nos missions. Bon, Puisqu'on parle du Mali, j'étais il n'y a pas très longtemps dans la région de Tombouctou, à Niafonké. J'ai rencontré des jeunes soldats du Burkina Faso qui étaient dans cette zone assez reculée. Ils travaillaient avec leurs collègues du Mali et on sentait qu'il y avait une solidarité, une volonté commune d'aider pour que la situation s'améliore. Mais je pourrais vous donner d'autres exemples, évidemment, que ce soit des jeunes, encore une fois, des civils ou des jeunes en uniforme.
Merci Martial. Changeons de cap pour Bangui, la capitale de la République centrafricaine, avec Claude-Adrien Demain de Guira FM. Guira FM qui accompagne la mission de l'ONU depuis 2014. Claude-Adrien, vous avez la parole.
Merci. Monsieur Lacroix, au cours de vos visites en République centrafricaine, vous avez notamment été à la rencontre des jeunes. Qu'avez-vous retenu de ces échanges et quel rôle pourraient jouer les jeunes centrafricains dans la pacification de leur pays ?
Merci et bonjour. D'abord, je crois que la République centrafricaine est l'un des pays où la population est la plus jeune. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration, évidemment, face à la situation sécuritaire, mais aussi beaucoup d'espoir, parce que le pays peut se relever s'il y a un processus qui soit un processus reposant sur plusieurs piliers. Le pilier d'abord de la stabilité institutionnelle, du respect des institutions, de la poursuite d'efforts de dialogue inclusif avec tous ceux qui acceptent le dialogue, évidemment, pas ceux qui s'en tiennent au recours aux armes. Le deuxième pilier, c'est celui de l'action sécuritaire qui est indispensable parce qu'il y a en République centrafricaine ceux qui ne sont pas dans un esprit de dialogue, il faut le reconnaître. Et pour cela, c'est une réponse sécuritaire qui s'impose. Et le troisième pilier, c'est que les principes fondamentaux soient respectés et que tous ceux qui sont responsables de crimes, de violations des droits de l'homme, puissent rendre compte de leurs actes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Je crois que c'est sur ces trois piliers que l'on peut aider à tracer le chemin de la paix, évidemment en étroite coopération avec les responsables centrafricains et les communautés sur le terrain partout en République centrafricaine.
Alors des jeunes ont manifesté à plusieurs reprises à Bangui ces derniers temps pour dénoncer l'accord politique pour la paix, au prétexte qu'il inclut des groupes rebelles qui ont repris les armes à l'occasion des dernières élections. Où en est la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix ?
D'abord, que les jeunes manifestent en République centrafricaine ou ailleurs, c'est normal. Ça n'a rien de condamnable parce que nous sommes nous-mêmes, Nations Unies, promoteurs de la démocratie et des droits de l'homme. Maintenant, quand on regarde le chemin vers la paix et la stabilité en République centrafricaine, bien sûr, il y a la réponse sécuritaire nécessaire. Encore une fois, je le répète, il y a ceux qui aujourd'hui refusent, du côté de ceux qui ont pris les armes, refusent le dialogue. Alors dans ce cas, il n'y a pas d'autre approche que de changer le rapport de force pour les ramener au dialogue. Maintenant, tous les signataires de l'accord de paix, de l'accord de janvier 2019, n'avaient pas pris les armes. Et je constate aussi que même dans les groupes qui ont recouru aux armes pendant les élections et au lendemain des élections, il y a des scissions, il y a des divisions. Je crois que ce sont des opportunités à saisir pour ramener vers le dialogue ces personnes et ces groupes. Et pourquoi je dis ça ? Parce que à la fin des fins, la stabilité en République centrafricaine, elle se fera par la réunion des communautés, elle se fera par l'instauration d'un climat de paix et d'un climat de dialogue. Encore une fois, la réponse sécuritaire, elle est nécessaire, mais elle ne peut pas à elle seule suffire. Il faut qu'au-delà de cette réponse, il y ait une approche la plus inclusive possible. Le président Touadéra, d'ailleurs, a récemment engagé un dialogue républicain, ce qui est une bonne chose en soi, et nous l'encourageons, et nous encourageons ce dialogue à ce qu'il soit, encore une fois, le plus inclusif possible. Mais attention, inclusif, ça ne veut pas dire dialoguer avec ceux qui refusent totalement ce dialogue et qui continuent de privilégier le recours à la force.
Monsieur Lacroix, je vous remercie.
Merci.
Les jeunes qui manifestent et qui font entendre leur voix, voix critique aussi, c'est également le cas en République démocratique du Congo. Kéline Kouté, vous êtes de Radio Kapi, radio de paix qui opère depuis 2002 dans le pays. Kéline, vous avez la parole.
Merci Christina, Monsieur Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Je dirais comme Martial, c'est un plaisir de vous avoir sur les ondes de Radio Kapi à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus. Ma première question, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a décrété un état de siège dans deux provinces de l'Est en proie à l'insécurité, le Nord Kivu et l'Ituri. Et c'est depuis le 6 mai dernier que cette mesure est entrée en vigueur. Quelle est votre réaction vis-à-vis de cette décision du chef de l'État, Félix Tshisekedi?
Eh bien, d'abord, ma réaction, c'est que comme nous sommes dans un État souverain, les décisions du président, et notamment cette décision, nous devons la respecter. Et je crois qu'elle traduit aussi, de la part du président Tshisekedi, une volonté d'engager davantage d'efforts justement pour traiter les problèmes, et notamment les problèmes de sécurité à l'Est. La relation de coopération entre la MONUSCO et les autorités congolaises, en particulier le président Tshisekedi, est très bonne. Nous travaillons ensemble. Le président Tshisekedi a, je me souviens bien, rappelé clairement que l'état de siège ne signifiait pas l'abandon de principes essentiels, comme par exemple le respect du droit à la vie, le respect de liberté fondamentale. Je crois que c'est un point essentiel, évidemment. Et donc, nous allons travailler ensemble, comme nous le faisons, mais peut-être même d'une manière, encore une fois, renforcée, pour essayer de répondre aux défis de l'Est, qui appellent évidemment des réponses complexes, des réponses qui vont au-delà de l'approche, comment dirais-je, sécuritaire, même si l'approche sécuritaire est une partie de la réponse. D'ailleurs, de notre côté, nous travaillons pour renforcer la MONUSCO dans la région, et notamment la brigade d'intervention rapide. Et nous sommes en train de déployer des unités de réaction rapide supplémentaires. Mais il y a une réponse qui va, encore une fois, au-delà de la dimension sécuritaire, et nous sommes désireux de travailler avec les autorités congolaises sur ces volets également. Et encore une fois, nous opérons dans un contexte où la relation de coopération est bonne et il y a une volonté commune de répondre à ces défis qui sont particulièrement difficiles et complexes dans ces régions de l'Est de la RDC.
Monsieur Lacroix, vous dites que vous allez collaborer avec les autorités congolaises dans le contexte d'état de siège. Quelle pourrait être la collaboration de la MONUSCO avec les autorités militaires nommées au Nord-Kivu et en Ituri?
Eh bien, d'abord, il y a une collaboration qui est ancienne entre les autorités, notamment les autorités militaires, les FARDC et la MONUSCO, qui se traduit de plusieurs manières, y compris par un soutien et un travail conjoint dans ces régions. Et donc nos collègues de la MONUSCO vont voir de quelle manière, dans cette nouvelle phase, faire évoluer cette coopération. Mais je pense que pour ce qui concerne les défis de ces régions de l'Est, il y a un besoin d'une approche intégrée. Et c'est ce que nous voulons aussi explorer, travailler, c'est ce à quoi nous voulons travailler avec les autorités congolaises, une approche intégrée qui prenne en compte, je dirais, tout ce qui alimente les conflits dans ces régions de l'Est du Congo. Et ce sont des facteurs très divers, puisqu'il y a des tensions ethniques de longue date, il y a l'économie criminelle qui parfois alimente et même manipule ces tensions ethniques, il y a des frontières qui sont poreuses et qui aussi encouragent un certain nombre de trafics. Et donc tous ces sujets doivent faire l'objet d'une approche intégrée dans laquelle la dimension sécuritaire est pertinente et importante, mais il y a aussi un travail qui va au-delà, un travail de paix, de dialogue, de rapprochement des communautés, un travail aussi visant à faire en sorte que l'exploitation des ressources naturelles de ces régions bénéficie au pays, à l'ensemble des communautés et non pas au circuit criminel. Sur tous ces dossiers, nous sommes prêts à travailler avec les autorités congolaises, aussi bien au niveau national que local, et aussi avec les communautés qui ont un rôle très important à jouer. Dans ce contexte, évidemment, les jeunes ont un rôle tout particulier parce que c'est de leur avenir dont il s'agit.
Durant tout le mois d'avril, M. Lacroix, plusieurs manifestations anti-MONUSCO ont eu lieu dans la province du Nord Kivu, des manifestations menées pour la plupart par des jeunes pour dénoncer l'inaction de la mission face aux tueries des populations civiles. Quelles sont les dispositions actuelles prises pour rassurer la population de l'implication des Nations Unies dans la recherche effective de la paix?
Alors d'abord, je comprends qu'il y ait des frustrations parce que la situation dans ces régions, elle est loin d'être parfaite et on le sait bien. Mais je voudrais quand même dire, pour m'être rendu plusieurs fois dans les régions, pour avoir plusieurs fois visiter des zones reculées où la MONUSCO est présente, que notre action fait une différence, et même une différence très grande pour un grand nombre de Congolais dans cette région, des communautés entières, dont les représentants m'ont dit, avec beaucoup de sincérité, mais en même temps beaucoup de clarté, qu'ils nous étaient très reconnaissants de ce que nous faisions. Donc je crois qu'il faut faire la part des choses et ne pas avoir l'impression que ces manifestants représentent une position majoritaire ou unanime dans ces régions. Mais ils représentent, ces manifestants, une frustration qui est réelle. Et donc, notre défi collectif avec les autorités congolaises, c'est de faire davantage. Moi, je l'ai dit, ce qui est du volet sécuritaire, nous sommes en train de renforcer la MONUSCO. Et nous espérons que ça débouchera sur des capacités de réaction rapide plus fortes. Mais je crois qu'il faut souligner plusieurs autres points. D'abord, nous devons continuer à travailler avec les forces de sécurité, les forces armées congolaises. C'est essentiel, sinon, évidemment, nous avons beaucoup de difficultés pour faire des progrès. Et d'autre part, nous devons favoriser aussi et travailler activement, encore une fois, avec les Congolais, à des solutions plus en profondeur. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la réconciliation entre les communautés, la promotion d'une économie qui bénéficie à tous, et non pas aux circuits criminels, non pas à ceux qui, finalement, perpétuent le chaos et n'ont aucun intérêt à ce que nous atteignions nos objectifs. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a dans ces fausses informations, ces manipulations qui circulent parfois dans les médias au sujet de l'action de la MONUSCO, il y a, je crois, aussi la main de ceux qui souhaiteraient que nous ne soyons pas là ou qui souhaiteraient en tout cas que nos objectifs de paix, de stabilité, de concorde entre les communautés ne soient pas atteints.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Un mot pour la fin, Monsieur Lacroix ?
Oui, d'abord, je voudrais encore une fois rendre hommage à nos collègues qui sont sur le terrain, et je crois qu'il faut aussi associer dans cet hommage tous ceux qui ont servi dans nos opérations depuis la création du maintien de la paix, plus d'un million de personnes, et en particulier ceux qui ont perdu la vie. La journée des soldats de la paix, c'est aussi une occasion de se remémorer tous les sacrifices qui ont été, qui ont jalonné le parcours des opérations de maintien de la paix depuis toutes ces décennies, avec plus de 4000 personnes qui ont servi et qui ont perdu la vie en servant cette cause de la paix au service des Nations Unies. Donc je voudrais simplement rappeler qu'il y a une longue histoire, une histoire qui est faite de succès, de réalisations très importantes au service de la paix, mais aussi une histoire qui est faite de sacrifices. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés et bien évidemment aussi à leurs familles.
Merci, Monsieur Lacroix.
Merci.